Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message Une vie cachée, prêché le 6 octobre 1955 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. C'est bon, prions. Notre Père céleste, nous te remercions aujourd'hui par-dessus tout pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort au calvaire pour nous ramener dans cette merveilleuse communion. Et nous sommes très reconnaissants pour ses bénédictions sur nous en ce moment. Maintenant, notre bien-aimé président de ce pays, et nous lui sommes reconnaissants, Père, car lorsqu'il a été élu, la guerre a pris fin. Et maintenant, il semble que les pourparlers de paix soient réglés en Russie et beaucoup de grandes choses. Et nous l'aimons, Père, en tant que leader de notre nation. Et nous apprenons qu'il a eu une crise cardiaque et nous comprenons qu'il est chrétien et qu'il t'aime. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait et nous avons besoin d'une telle personne aujourd'hui en tant que leader de notre nation. Et tous les frères ensemble, nous te prions pour sa délivrance afin que tu le guérisses complètement et parfaitement rétabli, que ses afflictions ne viennent sur lui que pour le rapprocher de toi, afin qu'il sache que tout ce qu'il doit faire, c'est de compter sur toi. Et puisse-t-il vite revenir à la Maison-Blanche, Père, et que durant tous les jours de son règne ici sur terre, il y ait la paix entre les nations, accorde-le, Seigneur, et que les hommes aient un aperçu de ce que sera la venue du grand gouverneur du ciel, le Seigneur Jésus, et alors la paix règnera dans tous les cœurs et il n'y aura plus de guerre. Accorde ces bénédictions, Père, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'étais juste un peu en retard pour entendre, je pense, le chant, et j'ai rencontré Frère Werno dehors. Et je ne vois pas Frère Egbert, alors je suppose que je l'ai encore manqué aujourd'hui. J'aime ces chants, les bons vieux chants. Dites, vous avez pas mal de prédicateurs ici. Je dirais que c'est bon de voir cette belle convention, et c'est ma grande occasion aujourd'hui de m'adresser à vous, de vous parler du Seigneur, ce qui, je sais, que beaucoup d'entre vous pourraient m'en parler. Et je ne suis qu'un bébé pour beaucoup d'entre vous. Et quand il s'agit de m'adresser à des ministres, je suis plutôt un peu timide. Mais on vous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et mon ami Joseph a certainement utilisé cela l'autre jour quand il a annoncé à la réunion qu'il ne m'a jamais demandé. S'il avait dit « Puis-je l'annoncer? » J'aurais dit non, frère Joseph. Mais après qu'il l'ait annoncé, eh bien, je n'avais plus d'autre choix que de venir. Alors, vous devez me supporter un peu, si vous voulez bien. Ce serait gentil de le faire. Et de parler un peu cet après-midi, et puis ce soir, préparez-vous pour le service de ce soir. Nous sommes tous si reconnaissants pour ce grand agissement du Seigneur Dieu et pour cette convention ici, et l'Église de Philadelphie, pour Frère Bosé, pour tout son personnel et les habitants de Chicago et des environs, nous vous sommes reconnaissants. À mon avis, c'est ce genre de choses qui permet de maintenir la colonne vertébrale de l'Amérique. Nous n'aurions pas d'Amérique s'il n'y avait pas de Seigneur Jésus ici pour nous aider à être l'Amérique. Après tout, la colonne vertébrale de chaque nation est sa morale. Quand la morale d'une nation s'effondre, la nation est finie. La maternité a disparu, autant tout abandonné. Toutes les autres nations l'ont fait et la nôtre ne fait pas exception. Et nous croyons que le grand moment où les armes vont être empilées pour la dernière fois et où les signaux de retraite sonneront pour la dernière fois est bientôt près d'arriver, où le roi Jésus viendra et prendra le règne ici sur terre. Et c'est ce que nous attendons tous. Et c'est pour ça que ces conventions sont organisées et que nous sommes tous réunis parce que nous avons des choses en commun à discuter. Bien sûr, notre thème principal est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et si je regardais la situation actuelle, où en sont les choses, je serais très découragé. Mais j'ai appris une leçon une fois, une petite chose qu'un homme a dite. Il allait donner un vélo Schwinn au meilleur cycliste. Je ne ne sais pas si je l'ai déjà cité dans cette église ou parmi ces gens ou pas. Le garçon qui pouvait conduire sur une planche de 12 pouces sur 100 mètres pouvait gagner un nouveau vélo Schwinn. Et beaucoup de garçons de la ville pensaient pouvoir le faire et allaient gagner le concours. Et ils avaient là un petit garçon qui était plutôt une sorte de mauviette. Il était sûr qu'il n'allait pas le gagner. Alors, tous les garçons sont montés sur l'heure, un par un, pour essayer de le faire, et tous en sont tombés, sauf le petit garçon qui était mauviette. Il a conduit jusqu'au bout de la planche, en est descendu et a gagné le vélo Schwinn. Tous les autres garçons se sont approchés et ont dit « Comment as-tu fait? » Il a dit « Bon, les gars, je vais vous dire ce que vous avez fait. » Il a dit « Quand ils vous ont fait démarrer, il leur donnait un petit coup de pouce pour qu'ils puissent démarrer, les tenait droit, les laissait partir. » Il a dit « Vous regardiez en bas comme ça en essayant de garder votre vélo sur la planche. » Mais il a dit « Je n'ai jamais porté attention à ça. Voyez, vous faites ça, ça vous rend nerveux. » Et il a dit « Vous êtes tombé. » Il a dit « J'ai juste gardé mes yeux fixés sur la fin et j'ai continué jusqu'au bout. » C'est ça. Si nous regardons alentour ici, mes frères, nous devenons nerveux. Mais regardons à la fin. À la fin. Frère Jack était sûrement en train de citer à table aujourd'hui quelque chose qui m'a frappé très profondément. Il parlait qu'un petit garçon qui était perdu, je crois que c'était en Irlande ou en Écosse, et il ne savait pas comment retrouver son chemin. Alors les gens l'entouraient et essayaient de trouver. Il a dit, « Eh bien, dit-il, dans la ville où il habitait, de l'autre côté de la colline, quelque part où il y a une grande croix, il a dit, « Si vous me montrez juste cette croix, alors je pourrai rentrer chez moi. » C'est vrai. Si vous pouvez me montrer la croix, je vais trouver mon chemin vers la maison. C'est le chemin vers la maison, n'est-ce pas? Amen. Bon, je ne sais pas comment m'adresser à un auditoire comme celui-ci. Je pensais juste lire un ou deux petits versets de l'Écriture ici, puis peut-être parler de la parole pendant quelques instants à ma manière familière. Ainsi, dans Hébreux, au chapitre 10 et le 19e verset, nous lisons « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Demandons à notre Seigneur de bénir sa parole. Père, nous sommes si reconnaissants d'avoir la parole, car la foi vient en entendant la parole. Et nous, tes serviteurs aujourd'hui, les hommes et les femmes qui se trouvent ici, sortons des champs pour venir nous rafraîchir dans cette convention. Nous prions, Père céleste, que tu viennes encore cet après-midi comme tu l'as toujours fait, car tu as promis de le faire et de nous bénir ensemble aujourd'hui, et que ta parole trouve son lieu de repos dans chaque cœur. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. J'ai pensé que peut-être, ne le sachant qu'hier soir et sans avoir rien préparé, parce que c'est généralement autre chose quand j'arrive, mais il se trouve que j'ai pensé à ceci. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. J'ai pensé que je pourrais prendre un petit sujet cet après-midi pour quelques instants sur une vie cachée. Or, la plupart d'entre nous sont dans ces conventions et ainsi de suite pour essayer de trouver comment avoir une marche plus rapprochée avec Dieu. Je suis sûr que c'est votre but, frère, cet après-midi. Maintenant, j'avais pensé de peut-être parler du surnaturel et je ne sais pas comment aborder cela. C'est tout aussi mystérieux pour moi que ça l'est pour vous. Et j'ai alors pensé à une vie cachée avec Christ, une façon de nous retirer, de nous éloigner de tout cela et de vivre avec Christ. Est-ce que je vois bien en Henry Grote? Dieu te bénisse, frère Henry. Je n'étais pas vu depuis longtemps. Et frère, je me suis juste retourné, j'ai vu papa et je l'ai reconnu. Quand j'ai fait ma forte dépression ou que j'ai quitté le champ pendant environ 8 mois, ils ont été pour moi un vrai frère et un vrai père. Ils sont restés avec moi tout le temps. Je n'oublierai jamais le jour où frère Grote, là-bas, nous sommes allés prier dans le champ de maïs. J'étais si nerveux, je restais dans les visions si longtemps que je ne savais plus si j'étais ici ou pas. Je n'oublierai jamais frère Grote quand il s'est agenouillé pour prier avec moi. Il a mis ses bras autour de moi et il a tout simplement dit comme, « Maintenant, Papa Dieu, veux-tu venir aider frère Branham? Papa Dieu, veux-tu venir aider frère Branham? » Cela m'est toujours resté, frère Grote. Oh, qu'est-ce que ça va être Frère Groat, un jour, j'espère avoir mon bras autour de toi et assis près des conifères où jaillissent les fontaines d'eau de la vie, dessous le trône. Nous serons alors en présence de notre Papa Dieu pour toujours et pour toujours vivre en sa présence. Maintenant, Dieu a rendu les choses si simples et la Bible et rendu l'Évangile si simple que même une personne comme moi, qui n'est pas instruite, aurait l'occasion de parler, de prêcher l'Évangile. Et je disais aux frères qui venaient, comme je me sens drôle d'aller là-bas aujourd'hui et de savoir que devant ces érudits et certains des hommes les plus intelligents du pays, assis ici, et comme ma grand-mère est pauvre et comment, oh, non qualifiée, mais vous savez, vous vous sentiriez probablement tous comme moi si vous deviez vous tenir devant des évêques et ainsi de suite. Mais vous savez, mes frères, Dieu ne demeure pas tant dans la théologie. Il habite dans l'amour et l'humilité, là où vous pouvez vraiment, tout le monde peut le faire, sa connaissance et le connaître. Je suis si heureux qu'il n'ait pas choisi qu'une petite poignée ou une certaine dénomination. Il a dit « quiconque le veut ». Et ainsi, ça nous donne à vous et à moi la possibilité de venir, d'être en communion avec lui. Maintenant, Dieu a si bien fait les choses que dans l'Ancien Testament, lui, où je me réfugie habituellement pour un sujet de temps en temps, il a fait l'Ancien Testament en parabole et sous des formes symboliques pour s'exprimer et ses actions, pour que les simples d'esprit puissent avoir une conception de sa volonté et de ce qu'il a fait. Souvent dans l'Ancien Testament, je suis retourné pour trouver où l'Ancien typifie le Nouveau, toujours ce que Dieu a fait et ce qu'il fait maintenant dans le Nouveau Testament, il l'a préfiguré dans l'Ancien Testament. Et tous ceux qui ont négligé Dieu et l'ont abandonné dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir l'exemple de ce qu'ils deviennent. Et ceux qui ont osé avoir la foi en Jéhovah et se sont démarqués dans l'Ancien Testament, nous voyons ce qui leur est arrivé. Maintenant, nous faisons notre choix. Et nous remercions Dieu pour une nation libre et un lieu d'adoration où chacun peut monter ses voiles par la foi de Dieu et s'envoler de cette terre. J'en suis si heureux aujourd'hui, car il y a beaucoup d'endroits où vous ne pourriez pas le faire. Bon, par exemple, dans l'Ancien Testament, la manière dont Dieu a donné toutes ses paraboles et a exposé ces choses qui sont une ombre aujourd'hui, ça, c'est la seule façon que je peux enseigner la Bible. Il parle de grands mots grecs et ainsi de suite, et il me mêle dans toutes ces choses. Mais si je regarde en arrière et que je vois ce que Dieu a fait là-bas comme présage, alors j'ai une idée générale de ce qu'il fait aujourd'hui parce que c'était une ombre. Si je vais à l'ouest et que mon soleil se lève à l'est et que mon ombre est devant moi, si je ne me suis jamais vu ou que je n'ai jamais su à quoi je ressemble ou à un être humain, j'aurais une certaine conception de ma forme en voyant mon ombre. Et l'Ancien Testament est l'ombre de la venue de Christ. Et tout préfigurait la croix. Et en Christ, toute la rédemption de Dieu, tous ses plans, tout le plan du salut, tout a été accompli au calvaire. Maintenant, comme c'était beau dans l'Ancien Testament, comment Dieu a préfiguré ce Saint-Esprit dont nous jouissons aujourd'hui? Comment il a préfiguré l'ordre dans ces conventions? Comment nous pourrions nous réunir dans la communion et avoir une fraternité ensemble? Là-bas, nous voyons comment, au début de l'Église, comment ce Dieu a préfiguré l'endroit aujourd'hui où je pense, mes frères, que nous entrons maintenant pour cette prochaine bénédiction. Tout le monde sait que nous sommes juste sur un temps de grâce. La grande bénédiction de la guérison divine et les puissances du surnaturel qui se sont éteints ont provoqué un réveil qui en a fait secouer le monde comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Il n'y a jamais eu un temps, à aucune époque, où le christianisme a secoué le monde entier, comme au cours des 5 ou 6 dernières années. C'est vrai. Dans chaque nation, à chaque endroit, par la radio, par les évangélistes, nous allons dans un endroit, dans différents pays, où ils ne croient pas en Dieu, et là, on découvre qu'un missionnaire ordinaire a distribué quelques tracts, ce qui est bien, mais quand ils voient l'agissement du surnaturel, des dizaines de milliers de païens tombent à la croix et servent le Seigneur Jésus. Ça a été un puissant mouvement. Or, nous avons tenu bon si longtemps. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes sur le point d'entrer dans un autre voile, au-delà, quelque part, où de plus grands mystères de Dieu seront révélés à l'Église. Et moi, pour ma part, j'ai les oreilles, les yeux et le cœur ouverts pour entendre le message quand il arrive et l'examiner. Car Satan va présenter beaucoup de faux coureurs, mais mettez-les de côté. Rappelez-vous, cela signifie seulement que quelque chose de réel va se produire quand vous le verrez. Car Satan fera tout, comme je l'ai dit hier soir, pour bloquer le vrai joyau de Dieu quand il se présentera. Vous allez l'entendre. Il a mis en place un blocus pour attraper Abel. Il en a mis un pour attraper Joseph, un pour attraper Jésus, et ainsi de suite. Et il le fera, un pour attraper Moïse. Car vous pouvez remarquer ces choses que Satan va essayer de bloquer. Et c'est là que je crois que les nombreux cultes et autres choses, comme nous les voyons s'élever au-dessus de la nation, ne sont qu'un phare pour dire « Attention, il sera bientôt là ». J'ai remarqué parmi nos frères que beaucoup de vous, en tant que personne du plein Évangile venant moi-même de l'Église baptiste et acceptant la doctrine du baptême du Saint-Esprit comme étant une œuvre séparée du Saint-Esprit, et j'ai pensé alors que lorsque Martin Luther est arrivé à la justification par la foi, il a pensé que c'était réglé. C'était la lumière pour son jour. Il l'a prêché, il l'a cru, il s'y est accroché, et c'était la lumière pour son jour. Puis il a traversé un autre voile, un homme, John Wesley, quand le calvinisme a commencé à balayer la nation et qu'il s'était mis à dire « Ce que Dieu va faire, il le fera, et ça ne nous donne rien d'avoir un réveil. » Dieu a suscité John Wesley, et il a certainement réduit le calvinisme en pièces, au point où il devait avoir son juste équilibre sous les œuvres de sanctification, la deuxième œuvre de la grâce. Les Nazaréens l'ont perpétué, puis les Pentecôtistes sont arrivés, et ensuite le baptême du Saint-Esprit a progressé vers de plus hauts sommets. Et maintenant, quand les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, « Voici le sommet, c'est tout. » Mais, mes frères, c'est faux, voyez? Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous avançons sans cesse. Ce sont des ressources illimitées de Dieu qui n'ont encore jamais été exploitées, des bénédictions et des puissances dont nous ne savons rien. Cela n'a même jamais été révélé aux archanges. C'est juste devant pour son Église qui croira. Car l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est pas entré dans le cœur des hommes ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Alors avançons et revendiquons nos droits. Tandis que Dieu ouvre les portes et déroule le tapis de bienvenue, avançons vers des profondeurs inconnues et ne nous colonisons pas jamais pour nous organiser, pour arriver au point où c'est « nous croyons ceci et c'est tout ». Croyons ceci plus tout ce que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Je pense que cela devrait être le motif de tout homme et de toute femme qui aime le Seigneur Jésus, de recevoir tout ce que vous pouvez de la main de ses grâces généreuses. C'est mon cœur. C'est pour ça que je n'ai jamais adhéré à une organisation ou pris parti pour un groupe, parce que je voulais rester grand ouvert pour l'amour de Dieu et ce qu'il pouvait me donner. J'ai remarqué dans la Bible, une fois, en passant juste pour quelques instants maintenant, dans l'Ancien Testament, quand un fils naissait dans une maison, il était un fils quand il naissait. Il devenait un fils quand il naissait dans un foyer. Et la maison ordinaire, typique oriental de cette époque, on donnait au fils une place, un tuteur qui élevait l'enfant. Paul en parle magnifiquement dans le Nouveau Testament et de ce que le tuteur devait élever l'enfant et nous étions. La loi était un tuteur pour nous amener à Christ. Mais alors cet enfant, quand il naissait, était le type de l'Église d'aujourd'hui qui est né de nouveau par le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu a enseigné son Église, l'a élevée et instruite au point qu'il est maintenant temps qu'autre chose se passe. L'Église devrait être mature maintenant. Mais beaucoup d'entre nous qui devraient enseigner les autres désirent encore le lait spirituel de la Bible. Voyez, nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner, alors que nous devrions être enseignants. Et à cela, je m'incline de honte, car je devrais en savoir plus que ça sur Dieu. Voilà. Voici une chose que je crois, c'est que lorsqu'un enfant, la Bible dit là que lorsque l'enfant a été élevé, le tuteur tient le père au courant de sa conduite. Or, de cette manière, le tuteur a été le Saint-Esprit pour les pentecôtistes et l'Église. Le Saint-Esprit qui donne. Et rappelez-vous, l'enfant, peu importe ce qui pourrait arriver, il était né enfant, il sera toujours un enfant. Et quand un homme naît du Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu, car il s'agit en fait d'une seconde naissance, d'une régénération qui crée quelque chose dans l'homme qui n'était pas là au départ. Lorsque chaque homme naît dans la famille de la foi, il devient un enfant. Ensuite, le Saint-Esprit suit cet homme et informe Dieu de la façon dont il progresse. Maintenant, après que cet enfant a atteint l'âge de raison, maintenant c'est encore un enfant. Mais si l'enfant a été insouciant, n'a jamais fait attention, il ne s'est pas intéressé aux affaires du père, cet enfant n'est jamais adopté par cette famille. Mais s'il était un enfant correct, un bon enfant, qui aimait les affaires de son père, et s'il était intéressé et qu'il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour faire progresser les affaires de son père, alors le tuteur en informait le père et il y avait ce qu'on appelle le placement du fils, ou comme Paul le dit dans les Galates, l'adoption. Que nous étions prédestinés à l'adoption des enfants par Jésus-Christ. L'adoption. Donc, le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans la même famille ou placé dans la même famille ou obtenir une position dans la famille dans laquelle il était né. Et je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui au sein de l'Église qui essaie de placer dans l'Église des apôtres, des enseignants, des prophètes, etc. Et nous avons vu de nombreuses fausses alertes et autres se propager parmi les gens, ce qui indiquait seulement que la véritable adoption était proche. Je le crois. Dieu doit placer dans l'Église. C'est l'affaire de Dieu, pas de l'homme. Or, lorsque ce garçon avait atteint sa majorité et qu'il était prêt pour l'adoption, qu'il avait prouvé par le tuteur, avait dit au père qu'il pouvait être adopté, on le faisait sortir dans un lieu public, et là, on le revêtait d'une robe, une robe d'honneur, peut-être pourpre ou d'une couleur royale. Et on l'installait, et toute la ville, tous les gens autour, voyaient le père adopter son propre fils dans la famille. Et puis, quand il était adopté dans la famille, déjà un fils, déjà un enfant, déjà un héritier de la grâce, puis placé dans la famille. Vous saisissez? Donc, lorsqu'il était placé dans la famille et qu'on lui donnait sa position, le nom de ce garçon sur un chèque était aussi valable que le nom de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que c'est là que l'Église est arrivée aujourd'hui, que le prochain grand agissement dans l'Église sera celui de Dieu, après avoir vu les fausses alarmes. Mais maintenant, Dieu va placer dans son Église correctement des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, pas des hommes instruits par des séminaires, mais Dieu va placer dans l'Église. Pas des nuits de la théologie, mais Dieu va placer dans l'Église, comme Dieu l'a choisi, comme le Saint-Esprit a enseigné cette Église et l'a élevée. Et là, Dieu va adopter dans leur position ses fils. Ce sont déjà ses fils, mais s'ils sont dignes de la position qu'il a pour eux, Si vous remarquez, dans un type parfait, Dieu a fait de même avec son propre Fils. Il en a pris trois comme témoins. Par la bouche de deux ou trois témoins, chaque parole sera établie. Pierre, Jacques et Jean, l'amour, la foi et l'espérance, et il les a emmenés sur une montagne à l'écart du reste du monde. Et là, devant des témoins officiels, Dieu a adopté son propre Fils. Il a été transfiguré devant eux et son vêtement resplendissait comme le soleil. Et une voix venant d'une nuée a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le! » Il l'a placé sur une montagne et placé des témoins pour le voir. L'a vêtu d'une robe aussi brillante que le soleil qui brille dans la qui brillait même comme le soleil dans sa force. Et Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et écoutez-le! » Dieu a adopté son propre enfant dans la famille. Ne m'écoutez plus, mais c'est mon Fils qui prend la relève. Amen. Cette parabole nous montre que le temps de l'adoption est proche pour l'Église. C'est le temps pour ça. Maintenant, revenons maintenant à la vie cachée et découvrons ce que cela va nécessiter pour entrer dans ce lieu d'adoption. Une vie cachée, nous réalisons que dans l'Ancien Testament, sous la loi mosaïque, nous avons découvert là, tout lecteur sait qu'il y avait deux voiles, deux compartiments et une assemblée dans l'installation du tabernacle de Dieu dans le désert. La première était le parvis, puis le lieu saint, puis le saint des saints. C'est la maison de Dieu, c'est la demeure de Dieu, c'est votre lieu d'habitation. Or, vous ne vivez que dans une maison à trois pièces, souvenez-vous. Vous pouvez avoir deux chambres à coucher, trois cuisines, mais vous ne vivez que dans une maison à trois pièces. Dieu vivait dans une maison à trois pièces. Lorsque Dieu était ici sur terre, il occupait une maison à trois pièces, l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Dans le temple temporel, il est dans un parvis, le lieu saint et le saint des saints. Chacun d'eux était séparé des autres et chacun d'entre eux avait un aménagement différent pour montrer le lieu d'habitation, un très beau type de l'Église. Le pécheur vient d'abord dans la cuisine, comme c'était le cas auparavant. La cuisine est l'endroit où vous mangez. Le salon est l'endroit où vous communiez. Et la chambre à coucher est l'endroit où vous vous reposez. Oh mon Dieu! Vous voyez? Le pécheur entre. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. Il vient et mange la parole. Puis il est baptisé dans la foi et accepte le Christ comme sauveur personnel. Il l'amène alors à communier avec Dieu. Mais il passe ensuite dans la chambre à coucher, le calme avec Dieu. Où toutes les choses du monde se sont tues et il est seul dans le calme avec Dieu. Frères, sœurs, c'est là où ce mouvement pentecôtiste devrait se trouver aujourd'hui. Un peu moins de bavardage. Nous sommes la Trinité, nous sommes méthodistes, nous sommes des assemblées, nous sommes l'Église de Dieu. Nous devrions être seuls dans cette tranquillité avec Dieu. Ne le croyez-vous pas? Nous devrions certainement l'être. Remarquez, quand le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait dans le premier voile, puis dans le second, à l'extérieur, dans les bassins où il lavait le sacrifice, puis le sacrifice était tué, mis sur l'autel des reins, et le sang était mis dans un récipient. Et le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait derrière le voile pour faire une expiation. Et remarquez les vêtements de ce souverain sacrificateur. Avant de pouvoir entrer dans le voile, il devait être déshabillé et habillé correctement pour y entrer. C'est ce que l'Église aujourd'hui, ce dont elle a besoin, c'est d'être dépouillé de tous ses petits cultes et de ses choses et habillé de la justice de Jésus-Christ et être prête à y entrer. Sa démarche doit être différente. Tout sur le bord de son vêtement, il avait une grenade puis une cloche. Et comme il marchait, sa démarche était si parfaite au point que les cloches jouent « Saint, Saint, Saint » à l'Éternel. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas que nous soyons des assemblées ou de l'Église de Dieu ou des unitaires ou quoi que ce soit d'autre. Notre marche devrait résonner aux oreilles du public. « Saint, Saint, Saint » est l'Éternel. Autre chose, il doit être oint avant d'entrer. L'huile d'onction était faite avec la rose de Saron et le broyage de la rose produisait le parfum et il le mettait sur l'huile qui coulait sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de son vêtement, recouverte partout de l'huile d'onction. Il marche correctement, il vit correctement, il se déplace correctement, il s'habille correctement. Là, il est allé prendre devant lui le sang. Et alors qu'il se rendait derrière le rideau dans la troisième pièce, un voile est tombé derrière lui, de façon à ce que le monde extérieur ne pouvait plus le voir. Et tout homme ou garçon ou femme ou fille qui a déjà été oint de Dieu et qui marche derrière ce temple, le voile de Dieu, le Saint-Esprit le place dans un endroit secret. Le voile tombe derrière lui et le monde et toutes ces choses sont retranchées derrière lui. C'est pour cette raison, frère, que nous brandissons l'adoption de Dieu comme notre différence de vie et qu'on se dispute et qu'on se querelle entre nous. C'est pour cela que le voile ne peut pas tomber derrière nous et que nous ne pouvons pas entrer dans cette présence de Dieu. C'est vrai. Nous sommes tellement intéressés par nos dénominations. Nous sommes tellement intéressés par ce que l'autre personne, que t'importe, suis-moi. C'est une affaire individuelle entre chaque ministre. Comment un ministre doit toujours se retrouver seul, même avant qu'il prêche, avant qu'il prie, avant de faire quoi que ce soit, il devrait se retrouver seul avec Dieu, dans ce lieu tranquille, caché avec Dieu. Comment ce voile qui tombe une fois. Or, les objets à l'intérieur de ce voile étaient différents de ceux de l'extérieur. Dans le parvis, la cuve où on lavait la bête, dans le voile suivant, c'était quoi? C'était le corps des bêtes était brûlé. Et là, il y avait les sept chandeliers d'or qui représentaient la lampe et qui éclairaient. Et dans les cours extérieures, il y avait la lumière du soleil. Dans le premier voile, c'était artificiel. Remarquez, et quand ils entraient ici, à cette lampe, alors ils allaient dans la cour suivante, qui était le Saint des Saints, comme ils y entraient, oint. Comme Dieu a bien planifié la chose. C'est si beau pour nous, car nous y voyons le grand plan du salut éternel de Dieu. Comment ces ministres devaient y entrer? Comment ils devraient se préparer pour entrer dans ceci? Or, à l'intérieur de cette cour intérieure, là, appelée le Saint des Saints, il y avait un objet appelé le propitiatoire. Et l'alliance était dans l'arche. Et l'arche avait deux chérubins. Et c'était à l'intérieur, c'était les objets à l'intérieur du lieu saint. Ensuite, les chandeliers d'or ressortaient, puis le bassin. Maintenant, cela représente parfaitement l'âge de Luther, Wesley et de la Pentecôte, exactement les trois étapes ou dispensations de sa grâce qui ont été données à l'humanité. Nous sommes dans la dernière dispensation. Je crois ça de tout mon cœur. Voyez? Maintenant, remarquez. Alors aussi, dans ce grand agissement, comment Dieu les a amenés là, dans ce grand lieu, une fois, Dieu a dit à Moïse, lorsque la manne commençait à tomber, la manne était un type de la vie, Christ descendant du ciel et périssant ici sur la terre afin de nous donner la vie. La manne est venue du ciel, posée sur la terre et les gens la mangent pour maintenir la vie. Christ est descendu du ciel et est devenu la manne pour que nous puissions vivre par lui. Et remarquez maintenant, les gens qui mangeaient la manne, ils devaient l'obtenir rapidement et la manger. Parce que lorsque le soleil se levait, ce n'était pas long qu'elle périssait, comme Christ. Le Saint-Esprit. La manne était un type du Saint-Esprit aujourd'hui, comme Dieu a apporté la manne naturelle à l'Église, il apporte aujourd'hui la manne spirituelle à l'Église spirituelle. Lorsque l'Église, au début, a vaincu, traversé la mer Rouge, le type de sang, fait le voyage sur la route vers la terre promise, la manne est tombée la première nuit. Amen. Et quand l'Église est passée de la vie à la mort, le jour de la Pentecôte, Dieu a fait pleuvoir du ciel une manne spirituelle qui a soutenu l'Église jusqu'à ce que Jésus revienne ou que nous passions dans le millénium, dans la terre promise. Amen. Oh, quand il l'a ramassée et qu'il l'a mangée, il disait que c'était sucré. Ça a le goût du miel sur la roche, disait-il, un goût de miel. David l'a appelé le miel dans le rocher, et c'est ce que c'est. Maintenant, remarquez, un type. La manne n'a pas cessé de tomber jusqu'au jour où ils sont entrés dans la terre promise. Pendant 40 ans, la même manne est tombée chaque jour. Alléluia! Comment pouvez-vous prendre le Saint-Esprit et le laisser à la Pentecôte, mon frère? Ça a été une Pentecôte continue, parce que la dureté du cœur des hommes a refusé de manger la manne. C'est vrai. Remarquez, alors, c'était un type. Or, le jour de la Pentecôte, où notre manne, dès que le peuple est entré dans la chambre haute, qu'ils ont obéi au commandement du Seigneur Jésus et attendu dans la ville de Jérusalem, la première fois que le Saint-Esprit est venu, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant qui remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues se posèrent sur eux comme un feu. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sont partis dans les rues, une petite bande de prédicateurs peureux, cachés dans une chambre haute. Mais tout d'un coup, la manne est arrivée, se déversant pour nourrir leurs âmes. Et dans les rues, ils sont partis avec une expérience qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, un beau type de Dieu soutenant son Église tout au long de ce voyage vers la terre promise. Remarquez, mes frères, alors combien de temps cette manne devait-elle durer? Elle a duré tout le voyage jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une autre dispensation dans la terre promise. Combien de temps est-ce que cela doit durer? Jusqu'à ce que Jésus vienne. Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Combien de temps est-ce que cela devait durer? Autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et aussi longtemps que la dispensation de la grâce va durer, Dieu appellera encore des hommes et des femmes à son service. Alors, le Saint-Esprit est tout aussi réel aujourd'hui. Maintenant, il n'a jamais dit. Maintenant, quand il mange cette manne, rappelez-vous, s'il la mange, beaucoup de gens la mangent et disent, « C'est ça. » Il devait en ramasser de la fraîche chaque jour. C'est vrai, il devait ramasser la manne fraîche tous les jours, car vers 9 heures, dans leur deuxième étape, elle allait fondre, elle allait pourrir. Eh bien, souvent, les gens qui vivent dans la deuxième pièce de Dieu, même en communion, après avoir déjà reçu la parole et qui entrent dans la deuxième étape de recevoir Christ dans leur vie et qui ne savent pas encore ce qu'est cette chambre secrète, cette chambre, ce qu'est ce lieu de repos, ils mangent la manne. Mais avez-vous remarqué que s'ils la laissent là trop longtemps, elle finit par fondre? Elle pourrissait. Et je pense que beaucoup de gens ont eu des crampes de terrain, de camping, de toute façon, que lorsqu'ils vont et qu'ils mangent du Seigneur sur le terrain de camping, et avant qu'un autre réveil puisse arriver, ils sont tous de retour et entortillés dans une sorte de culte ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Tu n'es jamais entré ailleurs. Dieu a dit, Moïse, fais-toi un vase d'or. Alléluia! Et là-dedans, mets-y cette manne. Et rappelez-vous qu'un croyant, lorsqu'il entrait là-dedans, cette manne ne s'épuisait jamais. Elle était toujours fraîche, nouvelle et douce au fil des jours et au fil des années. Et tout homme qui vient à Christ et qui se cache et que le voile tombe derrière lui, il est dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Il mange la manne jour et nuit, d'une heure à l'autre. C'est toujours aussi doux que le premier jour où votre âme y a goûté. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'aller là où sont les choses sont, de ne pas faire semblant ou ne pas faire semblant et agir, mais d'y entrer réellement. Amen. L'homme, une fois, maintenant souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là-dedans, que Dieu a choisi. Je crois que dans Apocalypse 2, il a dit « Celui qui vaincra ». Alors c'est promis aux vainqueurs. Vous avez dit « J'ai vaincu le tabagiste ». Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il y a beaucoup plus de choses qui concernent le christianisme que le fait de ne pas fumer de cigarettes ou de boire du whisky. Celui qui vaincra héritera de tout. Il sera mon fils. Je serai son Dieu. Et écoutez, je lui donnerai de la manne cachée. Amen. Je le cacherai et je lui donnerai les choses cachées dont le monde extérieur ne connaisse rien. Alléluia! Malgré qu'il mange de la manne, mais il n'en savent rien, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai une pierre avec son nom dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Entrer dans l'adoption ou dans le lieu caché avec Dieu. Ministre de l'Évangile, ne vous souciez pas de vos dénominations et de ce que le monde pense, mais cherchez à entrer dans la manne cachée ou la pleine révélation de Dieu et de mettre l'amour parfait dans votre cœur et vous et Dieu et tout le reste est au repos. Peu importe ce qui arrive, quoi qu'il arrive, vous êtes caché. Quel endroit où vivre? Oh, laissez-moi rester là. Comme le dit la chanson, laissez-moi me reposer sous l'arbre où l'eau coule si librement, où l'agneau est la lumière et où l'âme du sauvé ne meurt jamais. Amen. Bien sûr, ils mangent de la manne là-bas, mais ils ne connaissent rien de ceci. Ils n'y sont jamais allés. L'avez-vous fait, mon cher frère? Ne méprisez pas mon ignorance, mais je veux vous demander quelque chose. Êtes-vous déjà arrivé à un endroit dans votre vie où Christ avait plus d'importance pour vous que toutes les disputes que vous pouviez faire au sujet de votre Église? Est-ce que Christ a plus d'importance pour vous que le monde entier? Je ne parle pas d'une émotion ou de se conditionner mentalement. Je parle du fond de votre cœur, du fait que quelque chose s'y est installé, que quelque chose s'est produit, que vous ne savez pas comment cela s'est produit, mais que vous êtes caché et que votre seul but est de servir Jésus-Christ. Êtes-vous entré dans ce lieu, mon cher frère? Êtes-vous venu dans ce lieu où vous ne vous souciez pas de ce que les gens en disent, non pas pour sortir et avoir l'air intelligent, mais jusqu'à ce que l'amour de Dieu soit tellement ancré en vous que vous ne pouvez plus rien voir d'autre. Votre seul motif est de faire la volonté de Dieu, de l'amour pour tous qui coule librement de partout. Quel endroit où vivre? C'est l'endroit caché. C'est là que nous devons venir, mes frères. C'est l'endroit où Dieu révèle ses choses secrètes. C'est l'endroit où Dieu fait le placement et l'appel. Vous saisissez ce que je veux dire? Dans ce même endroit, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que je dois me dépêcher, mais juste pour une autre pensée. Dans ce même endroit, ils ont mis la verge d'Aaron pour décider qui Dieu avait choisi et qui il n'avait pas choisi. Et ce bâton qui était un bâton mort en le temps d'une nuit est revenu à la vie, a produit des bourgeons, a produit des fleurs et a produit des amandes. Il est venu à la vie, a produit des fleurs et a produit des fruits, un modèle très typique du pécheur qui est amené à Dieu dans le lieu saint. Souvenez-vous que ce bâton est passé sur chacun de ses autres éléments et qu'il est entré dans le lieu saint toujours mort. Mais de demeurer, il n'a jamais privé aussitôt qu'il l'a emporté là-bas. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vous observe depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit. Regarde votre attitude envers son royaume. Si c'est pour des raisons égoïstes, Si les choses auxquelles vous savez penser sont pour élever une dénomination ou si cela va plus loin pour vous élever votre position, si c'est pour faire de vous un homme respecté dans le monde, si c'est pour vous construire une grande église quelque part ou une certaine popularité ou quelque chose en dehors de la croissance ou de l'amélioration du royaume de Dieu, mon frère, quelque chose ne va pas. Amen. Maintenant, lorsque ce vieux bâton mort a été amené là et est resté dans la présence de Dieu lui-même, que s'est-il passé? Il a bourgeonné, il a fleuri et il a produit des fruits, ce qui montre que nous sommes nés dans... Ce bâton provenait d'un amandier et quand il a été coupé, il est mort. Et quand l'homme a été coupé de Dieu, il est mort spirituellement. Mais une fois amené dans la place de Dieu, devant la présence de Dieu, il vient à la vie et il produit la vie. Il produit des fleurs. Il produit des fruits. Jésus est venu à l'arbre pour y chercher des fruits. Elle avait tout sauf des fruits. Et c'est ce qui se passe avec nos églises aujourd'hui. Nous avons tout eu, sauf des fruits. Nous pouvons crier, nous pouvons parler en langue, nous pouvons argumenter sur les Écritures, nous pouvons enseigner notre théologie. Mais quand il s'agit de porter des fruits, l'arbre est très maigre. Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Cela montre que beaucoup sont encore à l'extérieur, sur le premier autel. Vous êtes toujours ouvert au public. Vous êtes toujours à l'écoute pour savoir ce que John en pense, ce que le voisin en pense, ou quelque chose pour vous-même. Mais une fois derrière le voile et que les rideaux sont tombés, vous êtes caché en Dieu par Christ. Voyez? Remarquez. Quelle belle image du pécheur couché dans la présence de Dieu. Maintenant, ce bâton posé là, il était rafraîchi. Il était parfumé. Il avait produit le parfum de la fleur. Et il portait des fruits. Les bourgeons sont sortis. Maintenant, un beau type de cela donné sur terre. La première chose que nous devons faire avant de pouvoir avoir une récolte, nous devons avoir des semences. Et la semence placée dans le sol va en produire leurs fruits. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, la première chose que nous devons faire est de recevoir Christ. L'arbre devait être un amandier pour commencer. Et Christ, vous devez le recevoir avant de venir dans ce lieu. Et puis, dans la présence de ce grand Dieu, alors, ces choses arrivent. Quoi? Voir la parole. Christ était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Christ entre dans la vie de l'être humain. Maintenant, remarquez. La première chose était un rafraîchissement. Qu'est-ce qui fait pousser la semence? Vous êtes-vous déjà levé le matin et avez trouvé la rosée qui est tombée du ciel et qui a rafraîchi la terre? Comment est-ce qu'elle la rafraîchit? Quand tout est tranquille, la rosée ne tombe pas le jour. La rosée tombe dans la nuit, quand tout est tranquille. La rosée ne peut jamais tomber sur vous, mon frère, tant que vous vous disputez et que vous argumentez, que vous inquiétez au sujet des choses de cette terre. Restez seul avec Dieu et laissez les gouttes de rosée de la miséricorde vous tomber dessus dans la tranquillité de précieux souvenirs, comme ils s'attardent, comme ils remplissent mon âme. Dans le calme de la nuit, les secrets se dévoilent. Comment ce Dieu peut faire tomber les rideaux autour de son croyant retiré seul? Il fera descendre un rafraîchissement du ciel que personne d'autre ou rien d'autre dans le monde ne connaîtra jamais. Seulement celui qui se retire là. Vous êtes-il déjà arrivé de sortir le matin dans cette sensation de fraîcheur? Dieu a rafraîchi sa terre. Le parfum. Êtes-vous déjà allé dans un jardin de roses? Chez moi, ils ont beaucoup de chèvrefeuilles. Le chèvrefeuille ne sent pas beaucoup dans la chaleur de la journée. Mais c'est tôt le matin, quand tout l'air a été purifié. Là, l'arôme du chèvrefeuille. Laissez un homme s'agiter, se battre, faire des histoires, et vous n'obtiendrez jamais beaucoup de l'arôme de l'Évangile de lui, mais qu'il se retrouve une seule fois dans la tranquillité de Dieu. Tout homme qui vient à la chair devrait d'abord s'isoler. C'est là que viennent les fruits. Ça produit ses fruits. Tout homme qui reste en présence de Dieu, dans ce grand lieu secret, caché, produira les fruits de la justice, de la paix, de l'amour, de la joie, de la patience, de la bonté, de la douceur. N'argumentez pas sur ces autres choses. Obtenez cela dans votre vie et vous ne l'aurez jamais tant que vous ne vous retirerez pas avec Dieu dans ce pays de l'adoption. Autre chose dont nous allons attirer votre attention juste avant de terminer. Regardez la lumière. À l'extérieur du parvis, c'était le firmament qui l'éclairait, la lumière du soleil, etc. Certains jours, c'était nuageux. D'autres jours, le soleil ne brillait pas du tout. Certains jours, il faisait sombre. Ça, c'est dans la cour extérieure. Dans la cour suivante, il y avait la lampe de Dieu où se tenaient les justifiés et elle était allumée par des mains humaines. C'est là que nous argumentons à propos de nos dénominations, que nous argumentons à propos de nos différences, que nous coupons les cheveux en quatre. Et oh, je ne crois pas à la guérison divine, je ne crois pas que ces visions viennent de Dieu, je ne crois pas à ceci, je ne crois pas à cela. Vous vous disputez parce que vous vivez, pourtant vous mangez de la manne, mais vous vivez sous une lumière artificielle. C'est vrai? Parfois, les lumières s'éteignent, il arrive que votre lampe soit enfumée, mais pour celui qui veut se retirer, passez au parvis suivant. Il n'y a pas de lumière artificielle nulle part. Mais entre l'arche des ailes de ces chérubins, une lumière surnaturelle était suspendue, qui était un halo de Dieu, qui illuminait toute la pièce. Et un homme, une fois entré dans cette gloire de la Shekinah, alléluia, qui revient là, en présence du Dieu Tout-Puissant. La morosité de ce monde, toutes les organisations artificielles et tous les credos faits par l'homme ont disparu et il vit dans la gloire de Shekinah, du Dieu Tout-Puissant. Mes frères, demandons à Dieu ce lieu d'habitation. Levons-nous. Ô cher Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, mes chers frères et sœurs qui se tiennent ici cet après-midi dans le lieu d'habitation de cette petite église appelée l'Église de Philadelphie, qui porte le nom de l'amour fraternel, je te prie, cher Dieu, d'être miséricordieux à partir du pasteur, à chaque évangéliste et tout pasteur ou enseignant renommé qui sont en ta présence divine. Et ô Dieu, que le Saint-Esprit enveloppe nos cœurs si étroitement contre la croix que nous la saisissions en nous sacrifiant et que nous nous précipitions vers la gloire de la Shekinah où nous ne courrons d'un bout à l'autre de la terre et ne couperons pas les cheveux en quatre avec les hommes et ne nous disputerons plus pour savoir si cela est juste ou non, mais nous vivrons et demeurons en sa présence et mangerons la manne qui a été emmagasinée là pour ceux qui sont cachés avec lui. Accorde-le, Seigneur, que cette bénédiction tombe sur cette convention et que chaque homme et chaque femme reparte d'ici cachés sous la gloire de la Shekinah du Dieu Tout-Puissant. Accorde-le, Père, je demande cette bénédiction en tant que ton serviteur pour mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Je crois, je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élevez ma voix. Oh, mes soucis sont finis. Je suis à l'abri. Loué soit son nom. Je l'aime. se réjouir à jamais, être dans la présence de la gloire de la Shekinah qui ne s'éteindra jamais. C'est mon histoire, c'est là mon chant, chanter sa présence, tout, louer le jour durant, parfaite soumission, tout est au repos, moi et mon Sauveur béni à jamais, c'est ça, comme nous l'aimons. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oh, comme je veux le voir! C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant.